Appropriation culturelle, 23e épisode, dernier épisode de la série au 15-2 événement jeu.
Ben oui, déjà le dernier épisode.
Salut Pierre-Marc.
Salut Mathieu.
Ça va?
Bon, ouais, ça va bien. Ça va bien.
C'est Noël qui s'en vient, la gang.
Yeah! Ah ouais. C'est tout un beau cadeau de Noël qu'on a pour vous autres.
Ouais, on a des beaux épisodes qui vont s'en venir dans le temps des fêtes. Puis là, ben, on finit le 15-2, donc on salue la gang du 15-2 qui nous a invités encore une fois. Merci. Merci Geneviève Bellin, merci au comité, merci à la guilde.
Oui, la guilde qui a fait un excellent travail tout au long de la fin de semaine aussi. Là, c'est pour les gens qui n'ont pas été, je vous recommande fortement d'y aller l'année prochaine.
Ils vont être aussi à la nuit polaire, dans le fond, qui revient en février à Val-d'Or, sous l'Igloo. Il y a les spectacles de musique émergents.
Mm-hmm.
Ils vont faire des 15-2 événements jeux spécial dans le chalet d'accueil du club de
Skifton
à Val-d'Or.
Oui, jeux de société, jeux de rôle.
On pourrait s'inviter là, on pourrait voir l'AF en podcast.
Bon, moi, j'ai été invité personnellement par Geneviève sur l'événement.
Tout en sur une invitation Facebook.
Ça veut tout dire, ça.
Oui, c'est ça.
Mon m'a appelé. On m'a dit, tu devrais venir faire un tour.
J'ai reçu un fax, moi.
Ah ouais?
Ouais.
Ça, c'est important. Man. Ouais. Quand on prend le temps de t'envoyer un fax aujourd'hui, là.
C'est juste que j'ai pas de fax.
Qu'est-ce
que j'ai pas lu
plus,
encore?
C'est ça. C'est qu'est-ce qui est plus étonnant, c'est que t'es une machine à fax.
C'est ça.
notre invité cette semaine, Mathieu, c'est qui?
Sébastien Savard, qui est.
Ben oui. Okay.
c'est un spécialiste en Dungeons and Dragons?
Oui, il faisait c'est un cours qu'il avait surnommé, sa maîtrise, c'était Donjons et données probantes.
Sur le jeu de rôle, le rôliste, comme il l'appelle.
Ouais. Ouais.
Donc, qui sont ces gens qui jouent au jeu de rôle? Et bon, Dungeons and Dragons, c'est pas seulement. C'est un des jeux de rôle, c'est un brand.
Quand un même. Système de jeu, comme ils les appelaient.
Ouais, mais il y en a plein d'autres. Puis c'est que l'impro, c'est du jeu de rôle.
Ouais, de la lutte, c'est du jeu de rôle.
Ouais. Ouais.
Yep. Autant comme quand on est jeune puis on joue à Police Voleur.
Quand tu as parlé de ton pénis dans le bain, c'est un jeu de rôle.
C'est un jeu de rôle, ça, c'est pas un jeu de rôle.
Ou triste, ça dépend de comment tu vois ça.
Ah, il peut avoir des moments. Mais toi, tu vas être surpris. Tu vas avoir été pris de court parce que ce sujet-là, c'est pas quelque chose que tu connais bien.
Tu parlais de mon pénis?
Non.
Okay.
Tu parlais du sujet de ce podcast-là. C'est pas quelque chose que tu connais beaucoup.
Je t'ai perdu. J'étais fatigué en plus. T'avais une grosse fin de semaine.
Ouais. Mm-hmm.
Mais j'étais comme. J'écoutais, puis j'étais content d'en apprendre. J'ai vraiment beaucoup appris sur cet univers-là.
Mm-hmm.
M'a pas donné le goût de jouer, là.
Non, mais encore là,
tu sais. En même temps, tu le fais, Matt.
Ah ouais, c'est vrai.
Tu le fais.
C'est vrai. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison.
Il a même fait des parallèles avec les Sims. Hein. Si
oui,
je me souviens bien avec vos Sims que vous avez fait pendant la fin de semaine.
Mm-hmm.
Mais c'est une rencontre super intéressante. C'est un gars qui est. Sa recherche est étrangement très intéressante et pertinente. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit étrangement, là, mais
c'est un jugement.
Que, je pense pas que c'est un jugement, je pense juste que c'est un univers qu'on couvre pas.
C'est
en
moins
général.
Connu, c'est plus underground.
C'est ça. Très underground. Puis même lui, il l'a dit, tu sais, quand il a choisi ça, c'est parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun travail qui était fait sur cet univers-là.
Mm-hmm.
Fait que donc, dans le monde du jeu, il y avait comme un trou, il y avait un.
Ouais, tout le
monde
on a appris aussi qu'on pouvait étudier à l'université dans ce domaine-là.
Mm-hmm.
Bon, fait que là, à la place de faire le résumé du podcast, il faudrait le lancer, je pense.
Rendu là. Fait qu'on laisse la parole à nous trois.
Ouais, et Sébastien Savard, pour le dernier épisode de 15-2 événements jeux, merci Médiaté et Ta Gueule Communication. Suivez-nous sur Instagram et Facebook.
Bonne fête.
Appropriation culturelle.
Appropriation culturelle. Toujours en direct du Centre Marcel Monnette à Val-d'Or pour le 15-2 événement jeu.
Oh yeah, Mathieu!
C'est notre quatrième podcast, Pierre-Marc Langevin est toujours en vie.
Je suis toujours en vie, ça va toujours bien, et toi?
Ben, pas si pire, j'ai commencé à boire un petit peu d'eau pour me préserver parce que tu karaoké tantôt, fait que je prends un break, là, puis les Sims tantôt, puis là, des crottes de fromage puis de l'orangeade. Benoît Saint-Pierre, la console!
Yeah!
Comment ça va?
Là, ça va.
Ouais, on a eu un petit problème technique, là, pour ceux qui attendaient le podcast, là, ça a été un petit peu plus long avant de... C'est pas vrai, c'est une blague. Mais ouais, c'est ça. On remercie d'ailleurs Olivier Stilenko, technicien de la salle, qui nous est arrivé avec un fil pour se rendre compte que c'était un problème de fil.
Bon, mais
Benoît comprenait pas, ça le fâchait.
Mais ce qui me fâchait, c'est que je pensais qu'il y avait un problème avec la console.
T'étais fâché.
Non.
Oui.
Non.
Hey,
là,
yes.
Oui.
Arrête.
Là, tu me fâches.
OK, cool.
Mais on va laisser nos petits conflits de console derrière nous, puisqu'on a un invité, même si c'est le dernier invité, et non le moindre, puisque c'est une personne qui s'implique encore une fois dans dans quelque chose qu'on va découvrir. Quand on parle d'appropriation culturelle, le podcast, on veut découvrir quelqu'un en 60 minutes, et s'approprier sa culture. Et là, c'est une culture que moi, je n'ai pas du tout dans mes acquis. Fait que je suis bien content d'en discuter avec lui. C'est Sébastien Savard.
C'est moi.
de dans le fond, qui est impliqué avec les Donjons et Dragons.
Ouais.
Donc, t'es un gars de Montréal, c'est ça?
Ça fait 10 ans que je suis à Montréal, mais originaire du lac Saint-Jean, d'un minuscule village de moins de 1000 habitants qui s'appelle le lac Bouchette. Donc, shout-out à tout le monde. Je pourrais les nommer, hein? Oui, il n'y a pas grand monde quand
Monique.
Même.
Monique. On a le temps.
Monique, Daniel.
Gaëtan. C'est ma mère, Gaëtan.
On la salue.
Ouais. On salue Gaëtan.
T'as pas beaucoup d'accent du lac?
Ah ben,
tu l'as perdu?
10 ans de Montréal, maintenant t'as un accent et à Montréal et au lac Bouchette, donc j'ai comme mon propre accent maintenant qui me suit.
Ok, restes-tu sur le plateau, non?
Non.
Tranquillement, ok, c'est bon, parce que tranquillement tu vas te transformer en français.
C'est trop cher un peu le
plateau. Ouais, c'est ça.
Ouais.
J'habite seul avec mes deux chats.
Ouais. Oh, t'as des chats?
Le nom?
Comment il s'appelle?
Hein? Yamjin.
Yamjin, shout out à Yamjin.
Facebook.
Facebook?
Facebook, c'est le deuxième?
Oui, ça fait plus que 8 ans que je l'ai. Et,
ça t'aurait pas tenté d'appeler l'autre Snapchat?
Ben, ben en fait, tout le monde me dit ça. Fait que ça aurait été une mauvaise idée.
Oui, ça aurait été
c'est ben, facile.
Facebook, là. C'est drôle. Hein, okay. Mais je vais aller sur Facebook. Tu vois si ton chat.
À cette époque-là, Facebook, c'était pas encore in. Il y a des gens qui refusaient encore d'être sur les réseaux sociaux.
Oui, il y en a pas beaucoup de ça, hein, des irréductibles. Ben, en fait,
il y en a encore quelques-uns.
J'ai l'impression qu'il y en a qui ont été Facebook, puis là, ça commence à se désabonner, mais on revient et tout à un moment donné, je pense. Hein?
Oui.
On n'a comme pas le choix, mais j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, mais j'ai l'impression que Facebook est sur sa belle mort tranquillement pas vite, là. Parce que...
Il y a toujours quelque chose qui va le remplacer, peut-être, beaucoup plus que juste mourir.
Instagram? Mort. Instagram? Ouais.
Je sais pas.
YouTube
revient fort.
C'est pas à nous de choisir.
Mais c'est pas pour ça qu'on t'a invité, évidemment.
Tu parlais de Donjon Dragon, ouais. Oui et non, parce que c'est le réflexe le plus facile qu'on a, c'est d'appeler ça du Donjon Dragon, tellement que cette licence-là, que c'est approprié le terme.
Mm-hmm.
C'est, un petit peu comme, c'est comme un petit peu le frigidaire, si on veut.
Ouais, ouais.
C'est un réfrigérateur, qu'on devrait dire, alors que la marque Donjon Dragon, c'est un seul jeu de rôle sur table, c'est Donjon Dragon. Mais il en existe des centaines.
Est-ce que c'est Forgotten Realms?
Ça serait l'univers.
Ça serait l'univers. Okay.
Dans Donjon Dragon, tu peux jouer à plusieurs univers. Donc, tu peux jouer dans les royaumes oubliés, ce que vient de nommer. Il y en aurait un qui serait spécialisé dans l'horreur, par exemple. On aurait Ravenloft. Il y en a d'autres qui sont peut-être futuristes. Je ne sais trop. Là. Eberron, c'est trop juste. C'est juste ça. Il faut distancier, dans le fond, un système de jeu, c'est les règles dans lesquelles on va nous expliquer comment que le jeu de rôle va se mettre en processus. Et ensuite, tu vas coller un univers. Tu peux faire un mash-up des deux comme tu veux. Tu pourrais techniquement jouer à Donjon Dragon dans un univers futuriste avec des armes à feu. Il y a des systèmes qui pourraient se faire. Tu peux jouer à Donjon Dragon dans l'univers de Diablo, par exemple. Mm-hmm. Tu peux tout comme... si on veut adapter...
Créer ton propre univers complètement.
Donc, on appelle ça comment le système de jeu en général? C'est comment qu'on devrait l'appeler, la bonne appellation?
Ben, ils disent en anglais « setting », mais on peut dire « système de jeu », tout simplement.
Système de jeu, ça s'appelle.
Le système de règles et l'univers. T'as besoin des deux.
Parce que toi, dans le fond, pourquoi on dit que t'es un spécialiste là-dedans, c'est que t'es en train de faire tes maîtres...
Ouais, j'ai fait ma maîtrise sur le jeu de rôle. Donc, j'ai comme ciblé un enjeu de recherche. J'ai choisi celui-là de la technologie. Mm-hmm. Je me suis rendu compte que c'était en train de changer la manière dont on fait du jeu de rôle aujourd'hui.
Ben oui.
Donc, avec des tablettes, des téléphones cellulaires.
Ouais.
Des tables avec un écran intégré.
Exact. Ouais. Tout ça faisait partie de mon corpus que je voulais étudier. Puis, pour me rendre compte que finalement, c'était juste comme encore en train de devenir cool. Mais c'était pas encore nécessairement très répandu tant que ça.
Parce que c'est encore assez underground.
Ouais. Puis j'aime souvent dire que quand je cherchais mon sujet de maîtrise, que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'hypothèses qui étaient erronées. Je m'attendais à avoir peut-être un phénomène plus important que je l'ai vraiment mesuré finalement. Il y avait une impression qu'en ligne, ça jouait vraiment beaucoup, qu'on utilisait beaucoup les logiciels, que c'était un phénomène qui devait être quand même assez grand en termes de proportion. Puis finalement, c'est une infime partie de gens qui étaient en ligne, alors que la grande majorité demeure comme ils jouaient toujours.
Dans la cuisine,
jeu de table. Exact. Puis quand tu y repenses, c'est logique. C'est pas une nouvelle tendance qui va révolutionner du jour au lendemain ça. Fait que là, je me sentais un peu niaiseux, mais tant mieux, parce qu'au moins, j'ai fait une démarche scientifique. Là,
C'est ça la force, c'est d'être de visu avec la personne pour jouer à ces jeux-là, dans le fond.
Oui, il y a plusieurs critères là, qui sont révélateurs du fait qu'on demeure encore j'appelle ça présentiel par rapport au distanciel, parce qu'on peut jouer comme en ligne, chacun chez soi devant sa webcam, distrait par Facebook. Donc la distraction, c'est un gros frein par rapport à tout ça. Ouais. Mais juste avec camaraderie, d'être en chum. Puis,
quand tu dis distrait par Facebook, tu parles de ton chat, évidemment.
Oui, exact. Exact. Mais le chat, en fait, il peut être quand même distrayant en vrai.
Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça.
En sautant sa table.
Peut sauter sur la table.
Il part avec les pions. Puis,
Mais ça, c'est pas propre aux jeux de rôle, c'est propre aussi aux jeux de société.
En général, c'est ça. Les gens qui vont jouer aux jeux de rôle, c'est des gens qui partagent les mêmes passions. Donc, nécessairement, ouais. C'est des gens qui vont commencer à devenir amis et qui vont développer un réseau avec ces gens-là.
C'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas incompatible. C'est juste que c'est peut-être un peu moins fraternel. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a des gens qui pourraient dire que ben moi, j'ai de la misère à avoir un groupe d'amis qui se réunit. On a déménagé. On veut rester le même groupe qu'on était au secondaire. Ouais. Fait que c'est une manière de pallier au fait qu'on a tous déménagé et qu'on n'est pas capable d'avoir un horaire STD ou que c'est difficile de se déplacer. Genre,
famille, les enfants, quand
c'est ça.
Arrive en ligne de compte.
Ça, il y a une clientèle, clairement, genre, pour celle-là. Puis il y en a d'autres aussi qui ont juste le goût de commencer, ils ne savent pas avec qui jouer. Puis là, ils peuvent se trouver en ligne, là, des amis, puis faire comme hey, moi, je serai disponible le jeudi soir, y a-t-il quelqu'un qui fait une partie, puis là, on s'invite. Sauf que quand tu te mets à regarder ça aussi c'est comme phénomène, tu te rends compte que ben, des fois, c'est pas juste les meilleurs joueurs qui se cherchent des tables, parce que les bons joueurs ont tendance à cimenter des alliances et ils font des campagnes à long terme, tandis que les mauvais joueurs se font tasser, puis là, ben, ils se retrouvent avec plus de parties, puis là, ils essayent encore. Puis, des fois, il y a des faces que tu reconnais en ligne. Tu fais que, ah, lui, il s'essaye encore.
OK.
Il y a des chances que ça s'essaye.
Il y a vraiment des gens qui se font chonner par la communauté.
Mais en même temps, c'est quoi
c'est
la différence?
C'est leur manque de talent ou c'est leur...
J'ai pas la réponse, mais c'est juste des je remarque ça, puis dans ma tête, j'additionne un et un.
Des joueurs qui trichent peut-être ou...
Et ben, c'est que
il y a
des gros préjugés par rapport aux jeux de rôle, comme lesquels c'est des gens qui sont asociaux, qui ont de la misère à avoir des liens interpersonnels. Puis souvent, on dit comme, ben voyons donc, c'est des préjugés puis tout. Mais reste que dans chaque groupe, ça existe quand même, ces personnes-là. Fait que même si on dit qu'on est au-delà du préjugé du rôliste là, qui mange des chips, qui boit 2 litres de coke par partie, on peut quand même le retrouver. Il existe aussi.
Ouais. Désolé, on participe un peu à ce préjugé-là en jouant aux Sims, on mange des crottes de fromage puis on a 2 litres de
fromage. Je ne veux pas dire que c'est pas des gens fantastiques.
Ouais, non, non.
Mais mettons, qu'est-ce qui ferait un bon joueur et qu'est-ce qui fait un mauvais joueur? Parce que, mettons, à Donjons Dragons, les possibilités sont, on va dire, les jeux de rôle, là, les possibilités sont vraiment infinies. Mais qu'est-ce qui fait un bon joueur? C'est-tu d'imprégner son personnage ou vraiment d'être bon puis de tuer les monstres? Ou...
Moi, je pense que la première qualité, c'est d'être un bon être humain, point. D'être une bonne personne avec qui tu as le goût de jouer. Okay, c'est pas mal ça qui est le plus important. Même si tu incarnes mal ton personnage, que tu fais des mauvaises décisions, si tu es le fun comme être humain, genre si on a le goût de jouer avec toi, on va t'accepter à table pareil, même si tu n'es pas comme purement efficace. Fait que c'est pas mal ça, la qualité de joueur, premièrement. Puis après ça, genre c'est à longue de jouer, ben peut-être que tu vas développer des capacités de personnage. Ça va venir avec.
Les autres joueurs vont vouloir t'aider aussi, puis t'aider à t'éclairer dans tes décisions, j'imagine, dans quelque part.
C'est ça. Fait que surveillez, va arriver à l'heure, votre hygiène personnelle, puis soyez respectueux, puis respectez les limites des gens. Genre, c'est déjà ça.
C'est pas mal des règles qui sont bonnes à respecter dans la vie. Là.
Oui,
j'aime ça. C'est le plus gros frein au rôliste, c'est leur hygiène personnelle. Ça m'a dit long sur les jeux de table, tu sais, comme.
Je l'ai mis dans l'énumération, là, mais j'aime ça. Non, c'est quand même ça, pas ça. Parce qu'en ce moment, j'ai même changé de chandail avant le podcast, parce que là, le 15-2, ils nous ont fourni un chandail officiel. Ouais. Et le mien sent la sueur. C'est épouvantable.
Ah, c'est
dis que tu étais à l'eau tantôt, je suis également à l'eau, parce qu'il y avait du vin aussi, j'ai tout mélangé ça, fait que là, je suis un peu chaud d'ail.
C'est correct, ça. On adore ça.
J'ai l'intention de continuer encore après. Avec vous, c'est votre dernier.
Ah oui, mais oui, on finit ça au Karaoke Kings, ce soir, au bar au sport, fait que ça va être le fun.
Je vais évaluer les offres.
Ouais, parce que tu fais de la route demain, évidemment.
Oui. Ben, il faut que je démontre l'exposition que j'amène ici. Là. On peut en parler, d'ailleurs,
sur
la nature de cette
chose. Ben oui.
C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment fier de ce truc-là. Je ne pensais pas de le remonter à nouveau. Parce que c'est vraiment fait d'un point de vue académique. Là. J'ai fait ça dans la perspective de on se cachera pas, genre, de me faire valoir en tant que chercheur, parce que quand tu fais un doctorat, on t'encourage à faire des publications puis de te monter un CV dans le but de pouvoir avoir des postes de professeur plus tard, au terme de 4, 5, 6 ans d'études.
Oui, te faire approuver par la communauté scientifique aussi, par le fermier.
Exact. Puis, il y a beaucoup, les game studies, il y en a quand même pas mal maintenant. On s'intéresse vraiment beaucoup aux jeux vidéo, à l'étude des jeux vidéo, mais pas vraiment au jeu de rôle, alors qu'il était là, peut-être, j'oserais dire, comme avant.
Ouais, je pense que oui, là, parce que bien avant que mettons, la télévision existe,
le jeu de rôle était présent.
Ben, c'est ça. Il y en a qui disent que ça pourrait être 74, là, qui serait comme la première fois qu'on a publié Donjons et Dragons. Fait qu'on pourrait mettre une date charnière à ce moment-là, malgré que ça a peut-être commencé dans des sous-sols. Non,
mais mettons, quand tu étais jeune, puis quand tout le monde était jeune, puis on jouait, mettons, aux police aux voleurs. Hein. Ouais. Ça, c'en est un jeu de rôle.
Oui. Ben,
parce qu'on a des règles, c'est établi, puis
c'est ça.
Il y a pas d'idée, mais tu sais.
Ben, tu sais, tantôt, on parlait de système de règles puis d'univers. Là, on est plus ou moins là-dedans, parce que c'est des règles qui vont être plus implicites entre des personnes. Fait que il y a d'un côté le jeu qui va être vraiment réglé, là, où est-ce qu'on va avoir des règles qu'on ne peut pas surpasser, tandis que dans un autre, c'est des règles plus souples, là, où est-ce que c'est plus des contraintes, qu'on dirait, là, en termes de définition. Là. Fait que, par exemple, là, je vais jouer à... C'est quoi l'exemple que tu as donné, là, des voleurs?
Police-voleurs.
Fait que, on a quand même dans notre imagination qu'une police se comporte comme ça. Elle a le droit de te passer les menottes, par exemple. Il n'y a personne qui a dit qu'à quelque part, on va se passer les menottes. Mais puisque c'est dans notre imaginaire collectif, on se le permet. Fait que c'est plus une contrainte. Il n'y a personne qui l'a détaillé. Quand on parle de jeux de rôle sur table à la Donjon Dragon, là, tu vas avoir un système de règles qui va te contraindre à jouer d'une certaine manière. Malgré que ça peut demeurer flexible, parce qu'on dit souvent que le maître de jeu a le loisir ou a le devoir d'adapter le système de règles en fonction de la narration ou de l'histoire qui a lieu. Puis ça, ben, c'est une des grandes forces du jeu de rôle sur table, justement. Si c'en est une, on appelle ça des familles de jeux, peut-être jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle. Ben, le jeu de rôle sur table a l'avantage de pouvoir être flexible sur les règles qu'il y a parce que l'objectif premier, c'est vraiment la narration et l'histoire. Mm-hmm. On veut vivre quelque chose ensemble. On veut vivre un film comme si on était l'acteur dedans. On veut vivre un livre. Et si les règles ne nous permettent pas de le faire, il faut les tasser parce que c'est l'histoire, c'est la charge émotive, c'est le climax de ce qui se passe qui devrait primer sur tout le reste.
Mm-hmm. Avec la création, finalement.
Okay. Oui, c'est ça. Puis là, ben, y a des personnes qui vont penser que il faut rester... by the book, c'est bien important. c'est des différentes écoles de pensée, puis sont valides aussi. T'sais. Ces gens-là ont quand même du plaisir. Il faut respecter quand même les différentes manières d'appréhender le jeu de rôle. Il n'y a pas une définition unique. C'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école, c'est de respecter le terrain. C'est beaucoup les utilisateurs qui créent la manière qu'on joue, finalement.
Mm-hmm. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'avais vu que, sur YouTube, à un moment donné, c'était les appendices. Jean-François Provençal et Julien Corriveau, qui jouaient à Dungeon.
Le chandail que j'arbore en ce moment.
C'est ça?
C'est dans le donjon des Two Games.
OK.
Et eux ont participé à ça.
OK, ouais, c'est ça.
Donc, c'est des YouTubers, je les salue d'ailleurs, sont vraiment prolifiques, beaucoup plus dans le terme du jeu de société. Mais au Pub Randolph, le Pub Ludique, ils ont fait ça. Ouais. Donc, eux autres, ils ont fait comme une espèce de série en ligne, là, où est-ce qu'ils jouaient à Donjons et Dragons 5e édition, avec un groupe de départ, genre peut-être qu'ils étaient 5, là, avec les membres des Two Games qui pouvaient s'alterner s'ils étaient disponibles ou non. C'était pas grave, c'est un joueur qui n'était pas là.
Puis il y avait des invités.
Il y avait des invités, donc des fois c'était parce que c'est tous des gens qui ont étudié en théâtre, là, puis se sont fait des contacts là-dedans, puis il y a des humoristes de relève, puis là ils les invitent. Puis là, ben, finalement ils leur font jouer à Donjons et Dragons, puis il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont jamais joué, puis qui connaissent plus ou moins les codes, et ça c'est terriblement intéressant d'un point de vue. Moi, j'y allais, en vrai, parce que j'étais justement dans ma maîtrise à ce moment-là. Puis je voyais des gens qui apprenaient les règles sur le fly. Ils faisaient comme, là, je peux-tu vraiment faire ça? Là, je peux juste le stabber? Ben, je le stab!
Oui, c'est ça.
Là, tu voyais à quel point il était comme violent de manière...
ça libérait quelque chose de malsain.
Ouais, c'est ça. Genre, j'ai le droit de le faire, puis c'est pas grave. Puis le monde trouve ça drôle en prime. Fait qu'il y a des gens qui ont découvert le jeu de rôle là-bas. Ouais. Il y a des parties qui sont vraiment comiques là, qui sortent de ça.
L'imaginaire des appendices en plus.
Exact. Moi, j'en ai un en tête. C'était avec Julien Bernatché. Après trois, il fait un personnage, c'est un enfant. La partie commence, je pense, ça prend même pas deux minutes qu'il se fait violer.
Ah oui, Mike. Ça, c'est Julien Bernatché.
Quand tu connais le personnage, tu vois que ça marche avec le type d'humour qui vient avec. Puis,
c'est merveilleux. Ouais. C'est quelque chose,
Fait que vous irez chercher ça. C'est encore disponible.
Et tu games?
Et tu games.
Ils ont arrêté, là. Juste qu'il y en avait fait quand même une bonne série, là, mais...
Ouais, c'était enregistré devant public. Fait que j'imagine que ça devrait demander plus de coordination puis de l'autorisation du Pub Randolph pour le faire. Maintenant, ils ont leur propre studio dans un sous-sol. Puis là, ils font beaucoup plus là, entre eux. Là. Fait que là, je pense qu'ils font plus du Vampire, de Masquerade. Okay. Puis là, ils peuvent avoir peut-être des invités encore. J'ai moins suivi celui-là.
C'est plus hardcore, hardcore jeu de table, là, mettons. Là.
Mais ils font quand même de l'humour, ils versent quand même dans l'humour.
Okay.
Ça, ça permet-tu justement de démocratiser un peu le jeu de rôle, c'est l'humour?
Clair. C'est, clair. Leur style, moi, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Moi, j'étais toujours... Tu sais, on déconne là, qu'on fait du jeu de rôle, là, ouais. Mais de la manière qu'eux l'amènent, genre, où est-ce que c'est une prémisse pour faire des situations loufoques, ça, c'est j'oserais dire que c'est nouveau. Je n'ai pas vu ça quand même beaucoup. Là. La plupart du temps, les gens vont essayer d'avoir des parties signifiantes, tandis qu'eux étaient vraiment comme une machine à blague où il faut que ça déconne.
Ouais, ça, c'est un show, c'est un spectacle.
Une partie insignifiante.
Fait que là, ouais, on se sert du système de règles et de l'émergence puis de la créativité des personnes qui sont là parce que c'est des gens qui sont habitués à faire soit de l'improvisation ou de l'humour.
Ouais, mais
qui ont de la répartie, puis ça crée des situations vraiment comiques.
L'impro, c'est comme un jeu de rôle?
Ben oui, si tu tires là-dessus, là, vers les espèces, les familles de jeux limitrophes, là,
ouais.
Ben on pourrait. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire attention à tout ce qu'on l'associe à ça. Là. Parce qu'il y a du jeu de rôle où est-ce qu'on peut le faire en clinique. Là, le psychologue pour... toi, tu vas être lui, puis toi, tu vas être l'autre. Ouais, là, vous allez vous dire vos quatre vérités d'en face. Ce que vous faites avec les Sims, là, on pourrait dire qu'il y a du jeu de rôle là-dedans.
Ouais,
fait que il y a clairement là, y en a un peu partout. Dans le jeu vidéo, on dit souvent aussi qu'il va y avoir du jeu de rôle dans le jeu vidéo. Là, mettons ouais. Baldur's Gate ou Final Fantasy, ouais. On les qualifie de jeu de rôle. Alors que là, il y a peut-être moins grande trace de jeu de rôle à proprement parler. Puis ça, ben, ça mêle toutes les
dans
cartes.
Dans les Baldur's Gate, tu veux dire?
Ouais. Parce que tu sais, je pense que l'idéal, c'est de rajouter tout le temps de jeux de rôle papier ou jeux de rôle sur table pour vraiment s'assurer de savoir de quoi qu'on parle. Parce que aussitôt qu'on dit juste « moi, je fais du jeu de rôle », ça peut être un million d'affaires.
Ouais.
Ça peut être du jeu de rôle sexuel, ça peut être ça peut être du jeu de rôle sur table, ça peut être dans Dragon Age, The Witcher. Il faut que tu spécifies de quel genre de jeu de rôle tu parles, parce que du jeu de rôle tout court, sans contexte, c'est pas assez clair.
Et là, si on revient à ton expo,
ouais.
On l'a pas dit, c'était quoi exactement?
C'était Donjons et Données Probantes, c'est comme ça
que c'est. Oui, c'est comme ça que je l'avais appelé, juste pour y donner un air scientifique. Parce que ça vient avec des a priori, là, parce que je veux me défaire de l'étiquette que c'est juste des jeux et que c'est pas, c'est pas intéressant. Puis l'exposition, en fait, c'est une manière de voir les plusieurs aspects qui pourraient être intéressants dans le jeu de rôle. Fait que j'avais, chez nous, moi, j'ai une espèce de grande collection de Donjons & Dragons, justement. Puis là, ben, j'ai gardé comme peut-être un livre de chacune des éditions qu'il y a eu depuis 1974. Fait que là, on est rendu à la cinquième. Après ça, j'ai mis un socle dans lequel une cloche en verre, là, tu peux voir comme différents jeux qu'il y a eu pour montrer que c'est pas seulement Donjons & Dragons. Après ça, j'en ai un aussi... pour montrer, il y a des livres universitaires qui sont là-dessus. On appelle ça les Role Playing Game Studies. Moi, je m'amuse à le traduire en études rôlistes. On qualifie de rôliste. C'est comme un qualificatif. Fait que quelqu'un qui fait du jeu de rôle, on appelle ça un rôliste. Ouais. Puis il y a un livre, il y a du monde aux États-Unis qui en font.
On est des fans ici.
On est live, on le rappelle qu'on est live devant
vous. Salut notre assistance.
Pour les auditeurs, c'est un enfant qui pleure. Mathieu l'a frappé, malheureusement. Excuse-nous, continue.
Ces livres-là sont vraiment récents. On parle de copyright de 2018-2019. Fait que, c'était même pas sorti à l'époque que je faisais ma maîtrise. Fait que, mais, fait que c'est vraiment, c'est en train de bouillonner. Il y a plein de manières de l'étudier. C'est vraiment vaste. Mais à Montréal, on est vraiment, vraiment focus jeux vidéo. On est vraiment fort là-dessus, puis c'est bien correct de même. Mais il y a quand même beaucoup de place pour faire du jeu de rôle parce qu'apparemment, on est particulier au Québec. Là, notre rapport au conteur, là, à la tradition orale, il y a des liens communs à faire. Là. Fait que il y a plein de gens qui doivent se dire comme « Ah oui, moi j'ai joué à ça quand j'étais jeune, puis là je l'ai abandonné. »
Fred Pellerin, en fin de compte, il a fait un jeu de rôle avec son village.
Ouais, si on veut. Ben,
ils créent des personnages, puis les amis, puis après le village les a interprétés. Parce que tu pouvais. Là, maintenant, ça n'existe plus.
On pourrait faire du jeu de rôle dans l'univers de Fred Pellerin.
Absolument.
Oui,
quelqu'un pourrait décider de régler le principe. Ça dépend toujours de l'expérience que tu veux donner, parce que dans les. Dans les attentes des joueurs, on va espérer avoir une progression en niveau, on va espérer avoir des objets, mais c'est pas nécessaire, ça. Il y a des jeux où est-ce que c'est juste justement, de, tu peux avoir un jeu dans lequel c'est une apocalypse de zombies, puis le but du jeu, c'est juste d'être le dernier survivant entre tes chums. Fait que là, c'est une compétition qu'on appelle, c'est qu'on est ensemble là, quand il y a trop de zombies, mais aussitôt qu'on a la chance, on peut backstabber l'autre, parce que le but, c'est
de finir tout seul.
C'est ça, de finir tout seul. Fait qu'il y a plein de manières de faire du jeu de rôle, puis encore beaucoup de façons d'innover. C'est juste que vous allez peut-être pas vous mettre riche avec ça, parce que non, c'est souvent... c'est
une communauté, comme on a dit, qui est underground encore.
Oui, oh, quand même. Puis c'est difficile, le modèle d'affaires, là, si tu vends pas un paquet de figurines, des produits dérivés.
Ouais, comment ils s'appellent, eux autres? Warhammer?
Warhammer, c'est ça. Pathfinder font bien ça aussi. Là, puis, mais en même temps, là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent, justement, à Donjons & Dragons. Fait qu'ils veulent de la marchandise, fait qu'il y a une demande pour ça. Mm-hmm. Puis ben, ils en font de qualité, puis c'est quand même intéressant. La lutte,
c'est un jeu de rôle?
Moi, j'ai des bons parallèles à faire avec la lutte, parce que ce qui est intéressant, c'est que la lutte, il y a des combats là-dedans, puis dans Donjons & Dragons, il y en a aussi.
Ben oui.
Fait que là, tu fais une prémisse, puis là, tu fais un contexte dans lequel il va y avoir un affrontement. Fait
ton narrateur t'a mis une mise en scène.
Oui, c'est puis en plus, c'est c'est à long terme, tu sais. Mm-hmm. On utilise beaucoup, là, j'en parlais dans l'entrevue que j'ai faite aujourd'hui. Là,
avec TVCNF?
Avec Chloé Eric.
Oui, pour ne pas le nommer. Ouais. Et il y a une vidéo sur YouTube, là, c'est de Max Landis, je pense qu'il s'appelle, un réalisateur, acteur américain. Puis lui, son vidéo YouTube, il fallait chercher ça, ça s'appelle Wrestling Isn't Wrestling. C'est tout simplement pour expliquer que ben on le sait que c'est pas vrai la lutte, que c'est stagé, mais qu'en même temps il y a une grosse charge narrative intéressante qu'on peut voir là-dedans. Fait que lui, il prend le personnage de Triple H, qui était à l'époque là Hunter Hearst Helmsley, là, qui était un British là, machin super prétentieux, puis qu'aujourd'hui
du Blue Blood.
Ouais, puis qu'aujourd'hui c'est rendu ce qu'il est. Il y a une grosse progression narrative vraiment complexe
pour arriver là.
Mais dans le jeu de rôle sur table, on va faire un petit peu la même chose. On va avoir un personnage qui va commencer niveau 1, puis il va se rendre jusqu'à niveau 12 après 4-5 ans. Fait que lui aussi, il y a une espèce de progression qui s'est passée comme ça. Puis c'est au fil de... Ben, il se passe un événement, il y a un combat, un petit peu comme la lutte, si on veut.
La mentalité du personnage a changé, les besoins primaires.
Il y a beaucoup de personnages qui viennent le backstabber, puis il y a des clans, des clics, tout ça. Fait qu'il y a des très bons parallèles à faire.
C'est un choc, Pierre-Marc. Tu t'attendais pas à ça? Ben, j'avais jamais fait le lien, parce que j'ai déjà fait le lien entre l'improvisation puis la lutte. Je trouvais que ça se ressemblait pour ce qui se passe dans le ring. J'avais jamais fait le lien entre les deux. Mais la lutte, c'est partout. Tu t'en rends pas compte, mais la lutte est partout. Tu peux faire des liens avec la lutte partout, même les shows de cuisine.
Mais ça revient au jeu, là, dans le fond. Le jeu avec un gros J. Là, ouais. De créer un personnage, puis de t'y croire, puis d'aller jusqu'au fond de ce personnage-là. C'est là que tu as ta ligne narrative. Là, mm-hmm. Puis on pourrait faire un jeu de rôle juste avec nos vies privées, là, dans le fond.
C'est quoi le système de jeu le plus fucked up que tu as vu? Celui qui est le plus weird?
J'en ai vu des originaux là, par exemple avec le Jenga Tower, si on veut. T'as le tour de Jenga au centre, puis à chaque fois que tu veux faire une action, tu prends une brique puis tu la mets sur dessus comme dans le Jenga original. Et c'est souvent des thématiques de l'horreur, si on veut. Mm-hmm. Puis quand la tour s'écroule, ça veut dire que ton personnage est mort. Fait que là, au début, c'est facile, tu mets des briques, mais là, plus ça va, le maître de jeu s'organise pour que la tension dramatique soit à son comble. Puis là, à chaque fois, là c'est ta vie que tu tiens dans ce bloc-là.
Fait que chaque personnage a sa tour, dans le fond?
Non, je pense qu'il y en a une commune. Okay. En plus, tu peux, mettons, mettre un bloc vraiment de travers. Fait que là, tu peux aussi jouer
à ça. Tu peux encore backstabber.
C'est des games qui durent pas longtemps.
Ouais, mais en même temps, c'est pas mal des one-shots, là, des scénarios comme ceux-là, jusqu'à temps qu'il en reste un, justement. Ça peut bien se prêter à ça. Là.
Toi, j'imagine, si t'es rentré là-dedans, c'est parce que tu dois être un rôliste toi-même.
J'allais jeune. J'allais comme plusieurs gens abandonner puis j'ai pas mal shifté vers le jeu vidéo. Mm-hmm. Là, j'ai fait des études en jeu vidéo, puis pour me rendre compte que au final de mon bac, puis j'ai fait un DESS en design de jeu aussi. Mm-hmm. Jamais on avait vraiment abordé le jeu de rôle. J'ai fait que c'était un manque, cette affaire-là. Moi, je m'attendais à ce qu'on l'étudie aussi. Fait que la maîtrise de principe, c'est que tu trouves un sujet puis que tu l'approfondis. Fait que j'ai dit je vais le faire là-dessus. Puis j'ai comme utilisé un petit peu le savoir que j'avais accumulé plus jeune, ça me servit, fait que j'avais comme déjà une grosse base là, pour en apprendre plus.
Ça t'a-tu remis dedans, faire ta maîtrise? Est-ce que ça t'a redonné une communauté? Est-ce que t'as recommencé à jouer?
Non.
Non?
Parce que j'ai fait de l'observation directe.
C'est honnête.
Ouais, j'ai fait beaucoup d'observations directes, puis j'ai vu des tables un peu catastrophiques des fois, puis j'en ai tellement vu et regardé que j'ai fait que ouf! Là, si je continue au doctorat sur ce sujet-là, il y a des chances que ça brise mon fun. Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans ce que tu as observé?
Encore une fois, c'est difficile d'aller de trouver des volontaires et d'aller chez le monde. Fait que moi, j'avais été dans ce qu'on appelle le Adventures League pour regarder des gens jouer en boutique. Puis c'était beaucoup ça, genre c'est du porte-monstre trésor, des petits scénarios dans lesquels on fait juste se taper sa gueule. Puis c'était une manière qui était beaucoup plus simple de trouver des parties. Puis ça, je sais pas, j'avais l'impression de perdre mes soirées. Là. Puis à regarder du monde niaiser pas mal plus. Mais tu sais, c'est juste comme peut-être une petite suite de mauvaises expériences qui a donné ce résultat-là. Là. Je veux pas insulter personne. Là.
Non, mais je comprends. C'est ton expérience personnelle qui
paye. Ouais, c'est là. Ça. Fait que, non. Puis c'est en fait, c'est mettons que j'aurais voulu m'intéresser à ce qui se dit autour de la table, il s'en dit à des affaires, fait que ça n'aurait fait là, des données, des retranscriptions à faire. Fait que j'ai fait comme, OK, non. Puis j'ai remis ça vers un sondage en ligne, finalement. Okay. C'était bien plus simple. Là, je l'ai fait avec des réponses ouvertes. Là, puis ça a été une très bonne décision.
Déjà, en ayant le sondage en ligne, le transcript est déjà fait.
Oui, c'est ça. Fallait quand même le coder après, genre, puis pour le mesurer, là. Mais ouais, voilà.
Ah, c'est fourrette, par exemple. C'est quand même fourrette.
Sinon, pour l'expo, ce qui resterait à couvrir, ce serait la panique morale qu'il y a eu dans les États-Unis puis peut-être un peu au Canada.
Panique
genre.
Morale?
Ouais, les gens disaient que jouer à Donjons Dragons, c'était
satanique. Ouais, c'est ça, oui.
Ouais, fait que là, parce qu'il y avait justement des thèmes religieux là-dedans, là, parce que le jeu de rôle, c'est calqué sur la vie réelle. La vie réelle, il y a de la religion. Puis on peut exagérer tout ce qui se passe. Fait que les démons, s'ils n'existent pas dans la vraie vie, je veux pas dire... Je suis athée, là. Mais ils peuvent jouer, ils peuvent exister dans cet univers-là. Fait que là, les gens faisaient comme, non, ça c'est tabou, on peut pas jouer nécessairement avec ça, c'est sacré, tu sais. Puis les gens sont mal informés, c'est nouveau, on joue avec la réalité, là, tu sais. Mais le théâtre dans le temps de la Renaissance ou avant l'Antiquité, genre, ça faisait peur, tu sais. Fait que c'est toujours ça. Maintenant, c'est Fortnite là, qui fait peur à tout le monde.
T'en penses quoi de ça? On en a parlé déjà un peu avec d'autres personnes. T'en penses quoi de ça?
Moi, je pourrais juste parler peut-être d'un point de vue de design. Moi, je dis que Fortnite fait vraiment bien sa job parce que
Epic Games, ils sont bons dans ça, là, dans le design marketing.
Oui, ben, c'est ça. Nous autres, on veut enseigner aux étudiants comment faire des jeux qui sont le fun, que tu as toujours le goût d'y jouer puis que le plaisir, ça y est là. Fait que de ce point de vue-là, ils réussissent leur truc, puis on a des leçons à retenir. Il faut regarder comment eux font leurs affaires, puis les imiter. Après ça, tout l'enjeu éthique par rapport à ça, de laisser ses enfants plus jeunes jouer, ça, c'est un autre débat puis qui dépasse de ma discipline. Là.
La déresponsabilisation des parents, à un moment donné.
C'est ça. Mais moi,
l'éducation des parents sur ça. Là,
aussi, tu sais, qui comprennent pas nécessairement ce que leurs enfants font. Là,
c'est clair. Puis moi, j'étais jeune, ils auraient été difficiles de m'empêcher de jouer à Fortnite. Là. J'aurais capoté raide là-dessus.
Puis tu joues pas en ce moment ou tu n'as jamais joué? Ou...
J'ai joué plus à PUBG.
OK, ouais.
Pour découvrir le Battle Royale aussi. Ouais, c'est ça. Puis j'en parle dans un podcast. Hey, je peux-tu faire une plug?
Ben oui. Ton podcast, vas-y.
Parce que je regarde d'autres consoles, c'est à peu près la même qu'on a. Parce que je travaille aussi pour jeux.ca, un site web là, qui parle à la fois de jeux de société puis de jeux vidéo, peut-être un peu de jeux de rôle, moins ces temps-ci.
Okay.
Puis là, on a décollé un podcast, ça s'appelle « T'es pas mon genre ». Puis chaque semaine, on prend un genre de jeu vidéo, puis on le décortique, on explique d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi les principaux jeux qu'il y a eu, comment il a évolué. Puis après ça, on se donne des coups de cœur personnels. Fait que ça vient toujours de commencer. Vous pouvez rapidement trouver ça là, en
c'est
googlant.
C'est où tu trouves ça?
T'écris « T'es pas mon genre », à la limite, rajoute jeu.ca. Puis,
c'est toutes les plateformes, ça. Balado. Puis,
Exact, c'est ça. C'est là-dessus, là, ça vient de commencer. On a le troisième épisode est sorti, je pense. Donc, je ne sais pas quand vous publiez vos affaires. Mais,
ça va être dans... Un mois d'habitude, ça prend un mois.
OK, fait que d'ici Noël, on devrait avoir peut-être 6 épisodes de sortie. Là. Fait que on parle de jeu de plateforme, le FPS, le Battle Royale qu'on vient de faire d'ailleurs.
Battle Royale, ça c'est le. Moi je trouve que le parcours est assez intéressant parce que je pense que la racine de ça vient du film Battle Royale.
Oui, on en parle.
Oui, c'est ça.
Ben, en fait,
lutte, moi, j'étais pas sûr. Non, c'est un film japonais.
On parle de lutte, parle du film, puis on parle même de boxe qu'il y a eu dans les années 1800, je pense, où est-ce que c'était tout le monde qui se mettait dans une arène puis se tapochait sa gueule.
The boxe.
Ouais.
Battle Royale de boxe.
Ouais, c'est ça. Puis c'est mon collègue. Okay. Je ne sais même pas s'il y avait des gants de boxe. C'était juste comme des
dynamiques. On appelait ça une soirée irlandaise.
Ah, mais tu sais, il y a eu le film Battle Royale, il y a eu le Battle Royale 2, puis après, il y a eu Hunger Games qui a plané là-dessus beaucoup.
C'est
ça. Après ça, il y a eu les jeux qui sont devenus de plus en plus populaires. Puis Battle Royale, ça c'est assez. C'est, en plus, qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est dans une classe. Là, il y a trop de monde dans la vie, là. Dans, mettons,
la planète, maintenant.
Il y avait trop de monde, il y avait trop de population. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils choisissaient une classe dans un lycée. Toute la classe était mise dans un bus. Ils ne savaient pas, là. Ils ne savaient pas d'avance. C'est à la fin de l'année scolaire. Ils se faisaient mettre dans l'autobus, amener dans une place réservée. Ils se faisaient donner un sac. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, ben, un genre de place fermée. Puis là, allez vous tuer. Puis il faut que tout le monde meure. Mais tu sais, il y en a qui avaient juste, mettons, des cuillères. Il y avait une autre personne qui avait un sniper. Puis là, c'était vraiment chaotique. Puis là, c'est des enfants. Là. Ils n'ont pas 18 ans. C'est vraiment intense.
T'as-tu vu la version américaine qu'ils ont faite de ça?
Hunger Games?
Non. Ça s'appelait avant Hunger Games, il y avait The Condemned avec Stone Cold Steve Austin.
Ah ouais?
En tant que lui-même?
Non, en tant que lui-même. Non, excuse-moi. Il joue un personnage.
Okay.
Ouais, puis okay. C'était des prisonniers, en fait, qui étaient choisis puis qui étaient droppés sur un autre. Puis c'était le même principe, ça donnait des petits affaires.
C'est ça. Fait que c'est vraiment le style Battle Royale. Puis après, il y a Hunger Games qui a vraiment popularisé ça. Là. Puis après ça, je pense que là, les jeux ont embarqué.
Techniquement, on pourrait faire un Battle Royale avec du jeu de rôle. Là. Chacun aurait son personnage, on se met dans une arène, on roule l'initiative, qui agit le premier, qui peut fesser sur quoi, puis il y en a un qui a des cuillères, puis l'autre, il y a un lance-roquette.
Puis après ça, il y a des loups cachés qui préfèrent que tu pourrais trouver d'autres trucs.
Il y a plein de choses à faire avec ça. Panique morale, ça a terminé justement là, quand le jeu vidéo est arrivé, fait que là, c'était rendu ça, là, l'affaire qu'il faisait.
Ah, les méchants, c'est les jeux vidéo, là, ça détruit nos enfants.
À chaque année, le clergé se trouve un nouvel ennemi.
Yes, c'est pas juste le clergé.
Mais c'est pas
les mères.
Ouais, les mères.
Bon, pensez à nos enfants.
Mads, Mother Against Drug and Sex.
Ouais, ben, il y avait Border About Dungeons and Dragons, c'était bad.
Bad?
B-A-D-D, c'était ça le truc qu'il y avait aux États-Unis.
Ça sonne bien, hein?
Ah ouais, ça sonne really bad. Puis grâce à cette panique-là, grâce à la couverture médiatique qu'il y a eu aux États-Unis, là, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et ouais. C'est ça qui a fait là, les ventes de. C'est TSR qui éditait ça. C'est parti en fou, ça a fait de l'argent, là, ça rentrait, il en sortait par-dessus les fenêtres. C'était tout du monde, genre, qui savait pas qu'il allait se retrouver dans cette job-là. Fait que c'est tous des gens qui n'avaient pas étudié là-dedans. Fait que tout l'argent qu'ils faisaient, ils dilapidaient ça, là. lire il y a une biographie de Gary Gygax, hein, puis il y a des détails un petit peu là-dessus. Là,
c'est qui fait comme,
c'est lui qui aurait pas mal cimenté là, le Donjon et Dragon là, avec Dave Arneson. D'ailleurs, il y a un documentaire qui vient de sortir qui fait un petit peu scandale parce que là, la paternité du jeu de rôle serait remise en question dans ce documentaire-là. Peut-être parce que Gary Gygax était une personne qui était beaucoup plus prolifique en termes d'écriture. Là. C'est quelqu'un qui était capable, en une nuit, là, de taper à sa machine là, plein de pages de texte.
Mm-hmm. Il faisait une histoire complètement. Là,
ouais. C'est un écrivain. Puis le système de règles. Fait qu'il jouait avec Dave Anderson. C'était peut-être plus son idée dans le temps de Bronstein, un autre univers de jeu là, qui avait le principe là, d'un arbitre. Là. Puis, fait que la manière de jouer, apparemment, ça sort plus de Dave Anderson, mais tandis que c'est peut-être Gygax qui a continué la patente, fait qu'il a pris cette idée-là et il l'a popularisé un peu plus. Fait que là, qui est vraiment le père du jeu de rôle? Moi, honnêtement, je m'en fous. Mais j'ai pas vu le documentaire non plus. Mm-hmm. Mais c'est plus simple de dire que c'est pas mal les deux qui ont chacun donné l'épaule à la roue.
Y a-t-il des personnalités connues, des vedettes qui ont participé à des jeux de rôle, qui ont participé à la
popularité? En ce moment, oui. C'est en train. Il y a des. Moi, j'appelle ça des coming out rôlistes. Okay. Stephen Colbert, genre. C'est le. Okay, ouais. Le Saturday Night.
Okay. Le Late Night Show. Colbert Late Night Show.
Colbert.
Ouais, c'est ça. Lui, il en a fait un. Vin Diesel est reconnu pour jouer à ça.
Okay. Le film. Son film, là, Triple X, là, c'est pas ça, là, mais.
Ben, c'est un film qui s'appelle Triple X. C'est parti les Chroniques de Riddick?
Oui, les Chroniques de Riddick. Ah, mais ça, c'est basé sur son personnage de jeu de rôle.
Ah, ouais. Vrai?
Oui. Okay. Les Chroniques, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment basé sur son personnage que lui utilise dans ses jeux de rôle.
Ah, ça, je savais pas.
Je pense qu'il y a une page Wikipédia, d'ailleurs, qui répertorie genre, les personnalités publiques qui sont officiellement role players. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, je l'ai décollé, la page de Wikipédia de Jeux de rôle sur Table Québec. Mm-hmm. Un des objectifs là, de l'exposition puis de la journée d'études que j'ai faite, c'était justement ça, de la créer. Là. Je me suis associé avec un bibliothécaire parce que lui, il est bon là-dedans. Là. Moi, je ne savais pas trop c'était quoi le buzz avec Wikipédia. Là. Parce qu'on disait tout le temps que non, c'était pas trop les affaires sur Wikipédia, c'est pas assez académique. Mais plus ça va, plus on se rend compte que c'est un outil indispensable.
Il y a des sources. Puis, tu sais.
C'est clair.
Il y a des gens qui travaillent là-dessus puis il y a des modérateurs. Là-dessus,
Puis là, ben, notre page à nous là, est créée, puis j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux. Là, puis si vous connaissez un bout de l'histoire, mettez-la, puis on va construire. Là, puis ça s'est rempli quand même assez vite. Mettons juste pour répertorier tous les YouTubers qui font des parties en ligne. Là. Il y a une grande liste quand même qui est là-dessus. Fait que quelqu'un, tu sais, il y a eu une espèce de débat bas. Genre, est-ce que je mérite d'être là-dessus? T'sais, moi, je suis vraiment amateur puis tout. Moi, ce que je réponds, c'est penser aux personnes qui ne vous connaissent pas ou qui sont à l'extérieur du Québec ou dans la francophonie. Eux, c'est une terrible belle place pour commencer. Là. C'est un belge rôliste. C'est s'intéresse au jeu de rôle en tant que discipline universitaire, à ce qui se fait ailleurs. Ben, il va commencer par cette page Wikipédia-là pour avoir son info. Là. Fait que, y a ça. Puis tout ce qui a été écrit un petit peu en jeu de rôle, là, si on peut les mettre tout en un même endroit, tant mieux.
Mm-hmm. Nice.
Ouais, au Québec, le rôliste, le Québec, de quelle façon on participe là-dedans? On a-tu créé des jeux ici qui sont utilisés, qui sont reconnus à l'extérieur du pays? Ou du...
Je pense que c'est moi, lui, que je trouve qui est le plus prolifique. Ça s'appelle Fate of Norns, qui a un univers, un système de règles qui est vraiment original. Je ne l'ai même pas essayé, là, mais c'est au lieu d'être des dés, il y a des runes là, qui sont...
Des runes?
Des runes. Tu piges dans un sac, là, c'est une espèce de symbole gravé là, dans okay. un... Dans
comme
une
des touches de Scrabble.
Ouais, ça ressemble à ça.
Mais pas okay. des lettres, c'est des signes. Là.
Puis sinon, l'univers, c'est les Vikings, si on veut. Là. Puis j'espère, ceux qui sont fans du jeu, peut-être qu'ils vont, ils pourront dire que je dis n'importe quoi. Mais un des trucs que je trouve intéressant là-dedans, c'est que les Vikings, eux, ils veulent mourir de manière brave, genre en combattant, pour accéder au Valhalla. Mm-hmm. Puis d'habitude, dans un jeu, tu veux tu peux éviter la mort. Tu ne veux pas comme prendre trop de risques. Mais dans celui-là, tu es poussé à prendre des risques parce que si jamais... Tu ça donne que tu meurs, ben ouais. t'es récompensé mm-hmm. parce que tu peux te faire un descendant de ce personnage-là qui gagne un niveau, si on veut, fait qu'il est plus fort en revenant. Okay. Fait que juste ce concept-là, s'il est avéré, c'est vraiment intéressant. Ça. Puis là, lui, son livre, il est vraiment super beau. Ça marche par Kickstarter, là, sociofinancement, mais il y a des éditions de sortie. C'est un gars, de deux montagnes. Du coup, il est à l'extérieur de Montréal.
Okay.
Puis on l'a croisé dans des événements ou deux. Là. Il a lui-même l'air d'un viking, je pense.
Il n'est pas sorti nulle part, ça. Là. Ça a regardé dans le miroir. Hein,
mais sinon, okay. C'est ça. On en fait pas tant que ça du jeu de rôle. On n'est pas tellement reconnu pour en faire beaucoup. Dans la première expo à l'Université de Montréal, on avait rassemblé un petit peu ça. Il y en existe quand même. Courant Fractal a fait un livre. On s'amusait aussi à prendre des personnes qui ont ciblé le Québec dans l'univers. Par exemple, on peut penser, mettons, je crois que c'est dans Shadowrun, où est-ce que le Québec, c'est comme un post-apocalyptique un peu, genre, mm-hmm. où est-ce que c'est la technologie, se mélange avec la magie, puis le Québec est indépendant dans cet univers-là, parce que c'est dans le futur, ça va arriver. puis sinon, des fois, c'est des parodies, là, où est-ce qu'il y a des personnages faits en sirop d'érable.
Ça, c'est
Vampire, The Masquerade, je pense que c'est Montréal by Night. Là, fait que c'est une extension que tu peux jouer à Montréal. Là, puis aller ça croit du Mont-Royal. Puis tout ça, là, exact. Puis là, il y a des vampires là, qui se passent là-bas. Tribe Aid.
Les fameux vampires de Montréal.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça en même temps, moi, je les ai répertoriés, mais j'ai jamais vraiment joué de première main là, avec ça. Là, parce que mon expertise est pas mal plus dans le Donjon Dragon, Pathfinder et compagnie. Là. Fait que je veux pas trop dire des niaiseries. Là. M'amener dans un terrain où est-ce que je suis moins à l'aise.
Non, mais trouve notre curiosité, puis ça va nous permettre de faire des recherches sur notre bord aussi.
C'est clair.
C'est vrai qu'un Charles Lafortune fasse son coming out de jeu de rôle, là, puis que ça pourrait élargir le public québécois. Là.
Ouais. Ou une émission à TVA, genre.
Ouais.
Jeu de rôle à TVA.
Au lieu d'avoir le tricheur. Là,
suite après la poule.
Ah bon. Ouais, un concept télé.
Ouais. Non, le jeu de rôle, la poule aux oeufs d'or.
Mais tu sais, pendant qu'il parlait de ce qui se passait au Québec, là, je me suis imaginé un jeu de rôle sur la nuit des longs couteaux.
Nice. Ben ouais. Avec la politique, souveraineté du Québec, le conflit entre la fédération.
Ouais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu sais, moi, j'ai déjà fait des campagnes. On voulait jouer à Donjon Dragon 3.5. On voulait essayer ça, mais personne ça y tentait de lire le livre.
Ouais.
C'est quand même une grosse lecture au début. Là.
Ouais.
Puis quand tu es Dungeon Master, là, tu as encore plus à apprendre parce que là, c'est toi qui es en charge. Il faut que tu connaisses les règles, il faut que tu les appliques. Fait que là, c'est vraiment compliqué. Fait que là, on avait fait une version maison très simpliste. Puis on avait un background de RPG, mettons, de jeux vidéo. Puis on avait fait de quoi de vraiment intéressant. Moi, j'avais été Dungeon Master une fois sur une couple de campagnes. Ou mon histoire, puis tu sais, tu parlais du storytelling, là, de l'histoire, c'est vraiment important, puis c'était un village que finalement, quand tu passais la nuit, tu te changeais en chèvre. Si t'as repassé une nouvelle nuit, t'es revenu humain, mais les gens qui étaient là ne le savaient pas, ils voyaient pas ça. Là. Ils savaient pas qu'ils étaient des chefs, ils savaient pas qu'ils étaient des humains, mais ils savaient qu'ils étaient des humains, mettons. Mais ils voyaient pas la différence. Okay. Fait que là, c'était vraiment fucky parce que je faisais en sorte qu'ils sortent puis qu'ils rentrent souvent dans ce village-là. Fait que là, un jour, tout le monde est en chef. Là, personne ne comprend. Le lendemain, tout le monde est des humains, puis là, ils sont capables d'interagir. Puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui reste dans le village, lui devient une chef. Puis là, tu sais, par message texte, tu lui dis. Tu parles à personne, tu fais juste dire bé, tu fais juste dire bah, c'est ça. Puis là, lui, j'explique le plot twist. En fin de compte, c'est un sorcier qui a comme manipulé le village, mais ça, c'est intéressant. Mais tu sais, là, on a complètement tout créé, le système de règles, le système de.
Ah ouais, t'avais une intrigue, là.
Mais c'est ça, mais, mm-hmm. mais c'est vraiment l'histoire. Puis tu sais, il y a un jeu de table qui est vraiment intéressant qui s'appelle Gloom. C'est avec des cartes.
Ouais,
des
Pokémon, cartes, ça.
Des cartes plastiques.
C'est oui, Pokémon. C'est un Pokémon.
C'est
des cartes en plastique. Ah, ouais. Avant Vileplume.
Ouais, Vileplume, c'est le troisième.
C'est ça. Fait que c'est un jeu de cartes, des cartes transparentes. Puis le but, là, c'est d'avoir la famille la plus misérable possible. Fait que là, tu mets des cartes, mettons, sur des événements qui arrivent à cette famille-là. Puis il faut que tu expliques pourquoi. Fait que là, mettons, exemple, si la carte c'est, a eu un écharpe, ben, il faut t'expliquer comment ça les rend misérables. Tu sais, ton storytelling, ça ne change rien à tes points, là, mais c'est ça qui rajoute l'intrigue. Puis là, tu peux utiliser ce que les autres ont dit parce que tu peux rendre les autres familles joyeuses. Puis toi, il faut que tu mettes ta famille misérable avant qu'ils meurent. Puis là, tu fais des points là-dessus.
Oui, c'est quand même difficile quand même.
Oui, mais c'est quand même.
Vous avez peut-être une vibe là, d'improvisateur. On ouais, a quelqu'un là, qui est habitué de jouer à Scrabble, puis tu l'amènes là-dessus.
Oui, c'est tough. Hein?
Moi-même, là, j'ai de la misère là-dessus.
Ah oui?
Mais tu as mis le doigt sur quelque chose là, en parlant d'un maître de jeu, il y a plus de jobs que les autres. Là. Ouais. Ça, c'est un problème parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver son maître de jeu. Mm-hmm. Parce que moi, on présume que je suis un bon maître de jeu vu que je l'ai étudié. Tu sais.
Ouais.
Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le cas. Trouver quelqu'un là, qui veut préparer ses parties puis qui s'investit dans le truc, là, quand tu le connais, garde les proches.
C'est le moteur en scène.
Oui, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à jouer, fait que ça fait en sorte que le ratio maître de jeu joueur, là,
il est différent.
Oui, il s'étire. Hein, fait que puis il y a des gens qui disent que ben, peut-être qu'on se dirige vers un modèle dans lequel on va avoir des maîtres de jeu payés. Puis ça, la communauté a vraiment de la misère à le digérer parce que ceux qui, ça fait longtemps qu'ils jouent, font comme « Hey non, moi je fais ça par plaisir, voyons donc. Mm-hmm, » c'est aberrant. Là, si on commence temps, à faire ça là, moi je vais être obligé de charger pour mes games. Fait qu'il y a plein d'arguments contre. Là,
Mais en même temps, tu sais, la personne qui est le maître de jeu, lui, va peut-être investir peut-être 20, 25 heures, 30, 40 heures dans une campagne ouais. De création complète. C'est drôle parce que suite à mon monde de chef, que oui. j'avais fait un autre monde où ce que le méchant, c'était, comment il s'appelle, le chanteur, le Pierre, pas Pierre.
Pierre Lapointe.
Oui, Pierre Lapointe. C'était lui le méchant.
Très bon choix.
Pour savoir. c'est ça qui était drôle.
C'est pas
moi, c'est ce que j'aimais faire, c'est de faire des petites affaires loufoques.
Ouais.
Où là, c'était le méchant, il habitait dans une tour, puis la façon de trouver c'était où. Moi, j'avais la musique. Il faisait tout le temps jouer la toune La forêt des Manémés en boucle. Tout le temps. Puis je faisais juste monter le son ou descendre le son, tout dépendant de où ce qui était.
OK.
Puis là,
dans la pièce où tu étais, tu faisais jouer la musique.
Oui, ouais, dans la salle. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le fun.
Tu vas aimer ce que les YouTube Games font. Parce qu'ils s'amusent justement. Quand ils introduisent un nouveau personnage, là, ils ont des pots de yogourt vides dans lesquels il y a des noms d'artistes. Fait que là, c'est comme qui mettons qu'il y a un nouveau. L'aubergiste arrive. Ah, c'est qui lui qui joue l'aubergiste? Puis là, ah, ben c'est Claude Legault. là, finalement, le maître de jeu essaie d'interpréter un petit peu comme il essaie Claude Legault. Puis là, il va y avoir des inside jokes qui vont arriver. Là. Par exemple, ils vont faire une citation de 19-2.
Drop ton verre.
C'est ça. Fait que ça me fait penser à ça, avec ton histoire là, du chanteur.
Ouais, mais c'est ça qui est vraiment. Je pense que tu sais de trouver son maître de jeu, parce que les maîtres de jeu, c'est eux, ils doivent savoir jouer, ils doivent savoir les règles, toutes les créatures dans tout son univers, puis en même temps la préparation de ça.
Mec, quand on aille à Montréal, Benoît, on va te faire inviter par Etu Game.
Ouais, ça serait
un jeu que tu ailles jouer avec eux autres.
Moi, ça me dérangerait pas.
De refaire un podcast avec eux autres.
Ouais, mais ça serait. Ben, non, mais on pourrait jouer toutes les trois. Là.
Ah ouais.
C'est vraiment. Dès qu'on a un bon Dungeon Master, après, c'est facile, c'est plus fluide. Puis,
là, je commence à être tranché.
Comme tantôt, Sébastien disait là, que il y avait des gens qui n'avaient jamais joué des invités, des humoristes ou des trucs comme ça. Ben, ça va être un peu vous autres. Là. Vous allez dire, je peux faire ça. Ben.
J'ai une expérience de rôliste.
Ben, tu fais de la lutte?
Non, mais quand j'étais jeune avec certains de mes chums, on n'avait jamais eu de livre, mais on avait mis notre système de règles à nous.
Ben oui.
Bon, là, sauf que, tu sais, c'est ça, c'était tellement flexible que si ça faisait pas notre affaire, on le changerait de même. Mais il y avait, j'ai eu une expérience de rôliste de même. On avait tout imprimé les feuilles de Baldur's Gate pour les armes, pour pouvoir les découper et pouvoir genre, mettre ça dans des caves, dans des coffres. Puis des enfants, c'était fait comme un genre de système de jeu. Mais j'ai jamais joué à un vrai jeu avec les vrais livres, les vraies règles. J'ai jamais suivi
ça. C'est peut-être pas grave. Quand j'étais jeune, nous autres, on a joué longtemps. On a, avec le recul, je l'appelle du freeform RPG. Parce qu'on n'avait pas de système de règles, mais tout était 100% roleplay. Et les combats. Donc, je m'y mets, je sortais mon épée du fourreau, j'arrivais vers le maître de jeu, puis j'arrivais pour. Il se donnait un coup sur la tête. Puis là, lui, il disait. Ah, il m'y met, il se tassait carrément de mon élan. Puis là, il disait. Ah, là, il s'est tassé. Puis là, après ça, il garoche un éclair dans le chest. Puis là, moi, je disais. Ah, là, j'avais mal dans le chest. Puis il n'y avait pas de point de vie. Tu sais, c'est comme. C'est lui qui me disait, comme là, t'as vraiment mal, ou là, t'es sur le bord de crever. Puis là, je prenais une potion. Fait que tout était comme mesuré au feeling. Je serais incapable de jouer comme ça aujourd'hui. Je pense que ça prenait un petit peu la découverte d'être un enfant.
Ouais.
Mais ça finissait en prise de lutte sur le divan. Là, parce qu'on était deux joueurs. Puis et moi, j'y sautais dans le dos pendant ce temps-là. Puis le maître de jeu était plus vieux que nous autres. Fait que ça lui donnait une autorité. Là. Il connaissait plus le jeu. Nous autres, on était là. Puis on faisait comme. C'était Stéphane Belly qui s'appelle. On va le nommer. Là. Il a un peu changé ma vie. C'est lui qui m'a initié là, au jeu de rôle. Là.
OK. Ouais.
Fait que, autrement dit, moi je considère que c'est une expérience parfaitement valide. Fait que je t'ai pas vu jouer.
Non.
Mais je pense que moi je te considérerais là, comme une expérience valide.
Nous autres, quand on dit qu'on joue à Donjon, c'est le même qu'on jouait. Dans le fond, moi j'étais le maître de jeu, mais je jouais aussi. J'avais ma feuille de personnage, puis moi et mon chum, ben, on faisait ce qu'on voulait. Au début, ça commençait. On a joué avec, on a eu une couple là, de versions qu'on a faites, qu'on a joué. Mais c'était même Halo, là, puis on était comme des soldats spéciaux. En tout cas, c'était allé loin.
tu prends ce que t'aimes sur le moment, puis c'est une manière de rentrer dedans, puis de le vivre un petit peu.
Ça revient comme tu disais. On s'est mis un système de règles, on l'a suivi, puis après ça, si on le changeait, ben, c'est parce qu'on ça nous tentait de le changer. Puis c'était nous autres qui étaient maîtres de nos affaires, finalement.
Ouais, je pense que c'est ça la beauté du jeu de rôle. Il parlait tantôt que ce jeu-là, c'est d'être flexible sur les règles et les interprétations qu'on veut. Puis on reste tous des humains. Après, on va tout aller vers notre intérêt. Si mettons, tu avais fait un jeu de rôle sur les vampires, puis les vampires, puis ça t'aurait vraiment pas intéressé, tu n'aurais pas resté.
Non.
T'aimes pas les vampires, Pierre-Marc?
Ça dépend lesquels. Nosferatu,
juste Lambert. Juste ceux qui sucent. Les autres qui sucent pas, ils aiment pas ça.
Ben moi, c'est les vampires qui brillent qui me dérangent.
Ah, t'es un petit peu anti-Twilight, un peu.
Pas mal Batman.
Ben, parce que moi, avec, là, dans ma définition, dans mon livre à moi, les vampires, genre, c'est des êtres là, qui sont des morts vivants puis qui n'ont pas de sang puis qu'ils en boivent. Fait que le fait qu'ils sont capables d'avoir des érections, je dis, ben là, c'est supposé marcher avec du sang. Ça, ça fonctionne pas.
Qu'est-ce que tu touches un point.
Il y a plusieurs diégèses, plusieurs univers. Là.
Avec ça, dans le fond, c'est parce que. Tabarnak.
En même temps, dans Blade aussi.
Le
sexe est vraiment omniprésent. Là,
contre chocolat, c'est un vampire.
Contre chocolat, non. Lui, il fait juste sucer du chocolat.
Okay. J'ai un bel exemple aussi, peut-être plus encore éloquent, par rapport aux zombies. Limite, là, les zombies, Donjons & Dragons, avant, c'était animé par un nécromancien. C'était un sort qui faisait en sorte que les zombies lèvent. Puis là, aujourd'hui, les zombies, c'est tu te fais mort, puis tu le deviens. Fait que là, tu fais initier tes amis, ils vont rencontrer un zombie. Tout de suite, eux autres, ils vont avoir le référent culturel des zombies apocalypse de « si je me fais mordre, je vais devenir un zombie », alors que c'est pas nécessairement le cas dans cet univers-là. Fait que là, on se rend vraiment compte que peut-être que le jeu de rôle va plutôt s'adapter aux conventions qu'on a eues avec le temps, ou ils vont rester fidèles à ce qu'ils ont toujours été. Là.
OK, mais tu sais, dans le sens que là, aujourd'hui, on n'accepte pas que les vampires, ça brille.
Ouais.
Tu sais, un peu dans le même principe. Là, tu peux avoir des zombies qui sont intelligents. J'ai lu un manga comme ça que le gars, c'est un zombie, il faisait juste pas mourir. C'est un zombie, il n'y a pas de pulsation, mais
ben,
il allait à l'école. T'sais.
Tu regardes Fallout, il y a les ghouls qui sont des zombies de radiatifs. Puis, dépendant de l'état de la radiation. Oui, encore les
mot
de radiation. Dépend le degré de radiation. Ils sont de féral à intelligente. Il y en a qui sont capables de vivre, qui sont intelligentes, puis qui sont capables de te parler. T'sais.
Mm-hmm. Ça fait des discussions surréelles, là, parfois inintéressantes. Ça. Ouais, non, les zombies sont pas de même. Ben oui, ils sont de même. Quelqu'un qui passe à côté et il vous juge.
Ah oui, c'est ça. La manu qui stand, la manu qui me sonne, il dit regarde, c'est écrit noir sur blanc.
Là. Ouais, moi, c'est écrit là aussi. Puis là, les deux avaient raison.
C'est comme l'école des fans.
T'as-tu déjà vu du monde qui sont pognés, qui s'est allé jusqu'au point?
Non.
Non?
Je ne veux pas décevoir, mais c'est probablement arrivé dans l'histoire.
Ouais, c'est sûr que c'était
arrivé. On appelle ça du bleed aussi des fois, là, où est-ce que tu es tellement immergé dans le jeu que ça a un impact sur ta vie réelle.
Okay.
Parce que ça peut, tu peux avoir des trigger warnings. Il y a toutes sortes de comment dire, des situations que tu peux vivre. Puis si toi, dans ta vie, tu as eu un traumatisme par rapport à ça, tu peux le vivre dans le jeu de rôle. Puis ça peut te donner des affects qui sont assez bad. Là,
oh shit.
En ce moment, il y a un mouvement aussi qui est en train de dire qu'on devrait s'assurer que tout le monde est cool avec ce qui va se passer dans le scénario. Il y a un principe maintenant qu'on appelle la X-card, où est-ce que c'est juste un X au milieu de la table. S'il y a une scène dans laquelle on est inconfortable, le joueur peut aller comme mettre son main dessus pour signifier à tout le monde que moi, je suis vraiment pas à l'aise qu'on y aille dans cette zone-là. Tu sais, par exemple, des personnages qui pourraient avoir des relations amoureuses avec les uns les autres. Puis là, le maître de jeu est censé saisir cette occasion-là pour faire un fondu au noir. Puis là, hop, vous vous réveillez le lendemain matin, on suggère qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'est pas rentré dans le détail.
OK.
Puis il y a aussi des outils là, qu'on met là, où est-ce que c'est une espèce de grille. Ça fait pas si longtemps que ça, c'est sorti sur le net, là. Puis là, tu donnes ça à tes joueurs, puis là, ils peuvent mettre un jaune, un rouge ou un vert sur certains thèmes. Là, c'est un mauvais exemple. Là. Mettons les araignées. Moi, je suis arachnophobe. J'aime pas vraiment pas ça que ça dans mes games. Fait que là, je mettrai un jaune ou un rouge là-dessus. Tandis que, sachant qu'il y a 95 ou 98% des joueurs qui vont te mettre du vert partout, qui en ont pas besoin, ça reste quand même un peu important, surtout en convention, quand tu connais pas les personnes avec qui tu joues, genre, d'au moins offrir ce safe space-là, si on veut. Mais vous connaissez comment que l'Internet fonctionne. Aussitôt qu'il y a des affaires un petit peu changées gauche comme ça qui arrivent, il y a un backlash. Puis il y a la toxicité beaucoup là, dans toutes les communautés. Là, j'en vois, dans le gaming aussi. Donc, dans la communauté rôliste aussi, il y a ça. Là.
Et ça, c'est drôle parce que ça me fait penser d'une petite série qui s'appelait Tom et ses chums où... Oui. Il y avait une partie où le personnage s'appelait Boba Fett, mais là, c'était Tom qui allait jouer avec ses anciens rôlistes, ses anciens copains, que eux, ils n'avaient jamais arrêté.
C'est très connu. Ouais. Ça, c'est un des premiers vidéos virales qu'on a eues, ça, au Québec. Puis c'est lié au jeu de rôle. Mais je te continue ton histoire.
Oui, mais c'est un peu ça, l'idée, là, tu sais, qu'il y avait deux personnes qui étaient vraiment mordues de ça, puis que c'était vraiment important, puis que l'autre, c'est pas grave, puis on s'amuse, puis là, il y a un personnage qui meurt par une niaiserie, puis que là, ça devient qu'ils veulent l'étrangler, là, tu sais.
Il a tout tué le personnage qui, ça fait 30 ans qu'il travaille.
Ça. Plus grave que ça et triste, c'est que dans ce court-métrage-là, Tom et ses chums, il y a un personnage qui va littéralement violer le personnage de l'autre pendant qu'il dort. Puis là, il dit « Est-ce que je me réveille? » Puis là, il roule des dés, fait « Non, tu travailles pas. » Fait que là, il se fait violer, mais reste que ce morceau YouTube genre, qui fait partie de notre histoire, finalement, c'est une joke de viol. Puis tu sais, aujourd'hui, on regarde ça, un goût crissement amer. Là.
Ouais, c'est sûr.
Moi, autant, j'étais comme « Ah oui, je suis nostalgique de cette affaire-là », mais finalement, non, ça vieillit vraiment beaucoup trop mal. Sachant que je pense qu'ils ont reçu le OK, le financement pour faire un long métrage de cette chose-là.
Pour vrai?
Ouais. Fait que à moins que ça ait été cancellé ou à moins que c'est freiné, là, on va avoir un long métrage de, je sais pas si ça va s'appeler Tom et ses chums ou la bataille de Farador.
Ouais, là, c'est un truc comme ça. Mais ouais, j'avais vu ça aussi.
Un long métrage, j'ai dit, ça va être Claude Legault qui va jouer là-dedans.
Ça se pourrait.
Ça va sûrement être la même gang qui a fait genre Flap Terre Cola.
C'est peut-être là qu'on va l'avoir, ton premier coming out rôliste au Québec.
Bon coming out.
Tu sais, tu dis Charles Lafortune,
il faudrait qu'il se poule aux yeux d'or.
C'est possible, tu sais. Il faut juste des fois du monde qui sont juste un peu allumés, ils vont faire « Hey, crime, ça me tente de faire ça. »
Pierre-Luc Funk qui trippe sur le jeu de rôle.
Mais tu sais, non, mais exemple, le film Kong Fury, là, où David Hasselhoff, il a fait « Ah, c'est drôle, moi le faire, c'est un court-métrage pour court-métrage pour un étudiant en cinéma. » Puis là, ils ont eu le financement, puis là, Arnold Schwarzenegger, il joue là-dedans.
Dans Kong Fury?
Dans le 2. Dans le long métrage, mais il n'est pas sorti encore. Ils sont en train de le filmer, ils ont commencé, mais Arnold Schwarzenegger va être là-dedans. Arnold Schwarzenegger, qui vous cite, il va être aussi dans le Mortal Kombat, là, en tant que Terminator.
Ça, j'ai vu.
Mais tu sais, ça, c'est drôle, mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va dire, hey, moi, je veux faire ça. Je veux essayer ça.
Meilleur exemple encore, je pense, c'est Turbo Kid.
Ah oui, Turbo Kid.
Au départ, c'était un court métrage, c'était super cool. C'était un film de genre, là, ou avec un esthétisme là, vraiment là, comme nostalgique des années 90, mais post-apocalyptique en même temps. Puis finalement, ils ont fait c'est vraiment bon, on va faire un long métrage. C'est sûr que c'était plus rapproché dans le temps. Là. Mais moi, c'est clair que je vais regarder ce qu'ils font.
Ça va être bon, ça. C'était bon. On avait fait le visionnement au cinéma à Amos.
Oui, c'est vrai. Non, j'avais pas pu être là, moi. Mais c'est vrai, Steve Levesque qui est dans la salle en ce moment.
C'était parfait.
C'était après une pratique d'impro.
La trame sonore était parfaite.
Ah oui? Oui.
C'est qui fait ça?
C'est... Le groupe québécois d'électro, là, c'est...
La Chicane.
La Chicane. Je veux tuer Mathieu. Je veux tuer Mathieu.
Non, mais c'est. Mais...
Mister Valère.
Non, c'est pas Mister Valère. C'est.
C'est pas grave.
C'est plus grave.
Ah, Dan Bigra. On va dire Dan Bigra. Fait que sinon, textez-nous au 6-12-12 pour
la, 6-12-12.
La réponse.
Merci parce que ça va plein d'affaires. C'est quoi ça?
Sinon, si on fait un petit rapport, dans le fond, moi, ce que tu nous dis dans cette émission-là, c'est que le jeu de rôle, il est pas mal partout autour de nous. On a pas mal tous participé une fois ou une autre d'une façon à un jeu de rôle, plus ou moins dirigé ou dans une histoire quelconque. Mais il est pas connu parce que finalement, tout le monde associe ça à Donjons et Dragons. Et qu'on prend pas connaissance de tout ce qui se fait.
On a un gros impact aussi des États-Unis. Ça vient de là, Donjons et Dragons. Puis je sais pas exactement qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on soit si captivé par ce système-là. Parce que en France, eux, il y a moins de place, Donjons et Dragons, en France. Okay. Quand on se compare, là, les gens qui viennent ici, ils font comme ben, comment ça, si tout le monde joue à Donge. Ils appellent ça Donge.
C'est
à Donge. comment ça que tout le monde joue à Donge ici là, c'est quoi la fixation? Il y a tellement d'autres sortes de jeux de rôle.
Ouais, hein. Puis là, on fait du donge.
Fait que moi, j'ai juste goût de leur dire, ben, vos gueules. on peut bien jouer ce qu'on veut.
Ouais, on retourne sur le plateau.
Désolé, les Français.
Ouais, ça, c'est drôle. Mais c'est quand même très drôle, tout ça.
C'est quoi l'avenir du jeu de rôle?
Numérique?
Ouais, je pense qu'il y a clairement vers le numérique que ça se passe. Là. On n'a pas parlé de Critical Role, là. Ça serait un autre gros morceau de l'histoire. Là. C'est des voice acteurs américains qui ont décidé du jour au lendemain de « Hey, notre partie là, est vraiment bonne, puis on est capable de faire des voix des personnages, puis tout. Ouais. » On pourrait mettre ça sur Twitch, puis voir si ça attire du monde. Et turns out, ça attire un méchant gros paquet de monde. Là. C'est une des communautés de tu sais, on parle des communautés de fans, là, qui est les plus intenses là, qu'il y a eu, là, dans l'ère moderne. Il y a vraiment comme c'est du monde qui paye 5$ par mois pour voir ces épisodes-là. Ça dure comme 3 heures, des fois 4 heures chaque partie. Là, assidu, puis c'est des saisons là, de plus de 100 épisodes. Là.
Oh my God.
Fait que là, c'est du 400 heures de contenu de jeu de rôle et les gens genre en mangent, en raffolent. Ça aurait été quelque chose de vraiment pertinent à étudier, mais quand je vous parlais tantôt que je voyais trop de travail à aller dans les sous-sols, 400 heures de visionnement, ça aussi, ça me fait un peu peur.
Ça fait peur un peu.
Ouais. Puis là, ben, ils ont fait comme une nouvelle saison. Ils ont fait un Kickstarter genre, qui a ramassé des millions pour faire un...
Des millions?
Ouais. Je ne sais pas exactement combien, mais je vais dire au moins deux.
Ben voyons.
Puis pour faire un dessin animé, là, un animé de la première saison là, avec les personnages.
Ils vont reprendre les voix, ils vont juste mettre des dessins dessus. Hein, pour.
Ben, je pense qu'ils vont faire plus un prequel, je pense.
Ouais, okay.
Un spin-off. Ben, pas spin-off, là, mais c'est comme la comment ils se sont rencontrés, machin. Mm-hmm. Là, fait que ça a été scénarisé là, par quelqu'un là. Donc vous pouvez essayer d'enquêter un petit peu là-dessus là, comme si, encore une fois je sais que ça existe mais je suis pas spécialiste de la chose là. Mais fait que ça vu que c'est vraiment populaire ben, y a clairement des gens qui vont essayer de les imiter. Peut-être que les plateformes en ligne vont être de plus en plus accessibles parce que là il y a un problème de quand deux personnes parlent en même temps on se coupe. Qu'est-ce que tu disais? Puis là vu que c'est du roleplay là, ça brise le flow. Peut-être que si on sent moins cette... peut-être si la technologie nous permet d'avoir des rapports...
Un bon son.
Un peu plus humain que ça l'est absolument. Peut-être que le truc en ligne peut...
Ouais, je pense que de plus le temps va passer, plus la technologie va se raffiner. Puis probablement que des jours, on va avoir des réalités virtuelles où on
par
va
hologramme. Vraiment être,
là. Ben, pas nécessairement par hologramme, mais dans une réalité virtuelle. Ouais, oh, ouais.
Il y a des... Tu peux... ça existe déjà, là. Où est-ce que tu peux...
Ouais, mais il y avait un truc de VR, là, que tu pouvais être n'importe qui, tu pouvais faire n'importe quoi. C'est VR. VR chat, je pense que ça s'appelle, c'est ça? Mais là, les gens, ils faisaient des jeux de rôle, ils se mettaient en personnage, puis...
Ouais.
Il y a plein de trucs, ça, c'est vraiment fou.
Là, c'est souvent qu'il y a une technologie qui va exister, puis on va se la réapproprier pour faire du jeu de rôle
ouais,
dedans.
C'est ça.
C'est rare qu'il y ait une technologie qui est pensée pour le jeu de rôle. Il y a peut-être Roll20, là, pour du jeu en ligne, genre que ça, c'est spécifiquement fait pour ça. Mm-hmm. Fantasy Grounds qui fait une revente là, de son logiciel là, qui va sortir au début de l'année prochaine, je pense. Puis c'est ça, mais en fait, Si y a une nouvelle technologie qui arrive, peut-être le jeu de société aussi là, est en train de devenir beaucoup sur les tablettes. Oui. S'il y a des tables numériques, là, oui. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont développer des choses pour les jeux de société. Puis on va faire « Hey, check, j'ai juste à le bidouiller un peu pour faire du jeu de rôle sur table avec. » Puis là, ben, on va avoir des tables numériques.
Il y en a une sur Kickstarter là, qui vient avec des genres de lunettes qui est en train d'apparaître. Il y a plein de projets, pour du rôliste, ouais. De ce que j'ai vu.
Ben, faudrait l'analyser, celle-là, mais j'en ai vu plusieurs des projets ou des promesses qui sont pas répondu finalement. Mm-hmm. Il faut toujours se méfier un peu dans le jeu de rôle,
la beauté, c'est de pas avoir, ben, d'être flexible sur les règles. Puis là, quand tu codes quelque chose, tu peux pas le rendre flexible.
C'est clair.
Fait que c'est ça qui est difficile. Je pense qu'il va y avoir plein d'outils, mais il n'y aura jamais le bon outil.
Ouais. Puis il y a l'apprendre à maîtriser l'outil. Puis on disait déjà que le maître de jeu a beaucoup de jobs. Imagine ça en plus, il faut qu'il apprenne à maîtriser le logiciel.
Mais peut-être qu'il y a
une charge de plus.
Peut-être que ce n'est pas ça l'idéal, que le maître de jeu devienne le logiciel.
Ouais.
Tu sais, que le logiciel soit le maître de jeu, ça viendrait répondre aux problèmes que tu disais tantôt.
Un petit peu avec l'intelligence artificielle, tu veux dire.
Exactement. Ouais. Mais tu sais, ça serait lui qui s'occuperait de
faire ton tour. C'est le rêve ultime.
C'est
un petit peu comme le holodeck de Star Trek.
The American Dream.
Mais peut-être aussi dans le principe, il y a des jeux de table, là, des jeux où que tu es coopératif avec les autres, où il n'y a pas de maître de jeu, mais il y a un but. Et c'est tout le monde est collectif, puis fait déplacer autant les ennemis que par rapport à des règles X. Là.
Ouais, le jeu de société est vraiment en train genre, d'avoir un boom, puis d'avoir plein de nouvelles manières d'avoir du fun. Puis clairement, il va avoir des impacts sur le jeu de rôle. Mm-hmm. Par exemple, on parle beaucoup de jeux legacy en jeu de table. Mm-hmm. Où est-ce que le jeu de société, là, c'est que tu sais, je dois vous froncer du sourcil, là, le jeu legacy, c'est des jeux que tu vas déchirer des cartes. Tu vas jouer juste une fois avec, tu vas faire peut-être 10 parties.
Déchirer les cartes.
Ouais, ta première partie, tu vas avoir des autocollants, genre, puis là, les décisions que tu vas prendre, tu vas les mettre sur ton plateau de jeu. Mm-hmm. Puis ça va changer ton plateau pour la prochaine partie. Fait qu'il y a des impacts d'une partie à l'autre. Fait que c'est une espèce de
comme
scénario.
Gloomhaven.
Une campagne. Oui, Gloomhaven est un très bon exemple. Ça a commencé avec Pandemic Legacy, ouais. Ces trucs-là. Ben, le jeu de rôle sur table, c'est toujours des campagnes qui vont qui se jouer juste une fois. Fait que le médium est déjà adapté pour ça. Fait que moi, j'achèterais un kit dans lequel ça viendrait avec une carte où il n'y a presque rien d'écrit. Puis là, à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque scénario de 4 heures, on collerait les affaires sur la map. Puis comme ça, notre monde, ça serait le nôtre. Puis on le bâtirait au fur et à mesure. Chaque fois qu'il y a un nouveau dieu, on pige une carte. Il y a un logo dessus, on le nomme, il y a un des joueurs qui le nomme, on le met sur notre fiche aide-mémoire des dieux qu'on a eu. Comme ça, le jeu, genre, le matériel nous pousserait à faire une campagne, nous donnerait des outils pour créer nous autres-mêmes. Puis ça, je pense que c'est une idée que j'ai. J'aimerais ça la faire, mais mm-hmm. Y a des gens plus intelligents que moi qui peuvent. Fait qu'une année, ça va sortir, puis je vais l'avoir dit ici. Je vais y poursuivre.
All right, c'est enregistré. On va donner la date pour le fun. Non, en ce moment, on est le 19 octobre.
C'est combien de temps, Ben?
C'est pas tes affaires. Je dis tout le temps ça. 1h03. Ouais, 63 minutes.
C'était le mandat, ça?
As-tu réussi à faire le tour de la question suffisamment?
Suffisamment. On l'a pas
suffisamment.
On pourrait en parler longtemps.
Ouais.
Vous en doutez.
Oui, c'est sûr. Ah, oui. Ouais, c'est sûr.
Mais si t'as étudié pendant 4 ans là-dessus, j'imagine que. Ouais.
Plus que 4.
Ouais, plus que ça.
T'as-tu entendu tout ce qu'il nous sort comme info, mais en plus, il dit qu'il joue plus. Ouais, il a juste appris, tu sais.
Ouais.
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, par exemple. C'était super intéressant. Écoute, merci Sébastien d'avoir été au jeu d'appropriation culturelle.
On va aller jouer à notre role play préféré, c'est-à-dire
les Sims. Alors, on va rajouter 3 personnages à soir.
Ouais.
Ça va être un gros 2 heures.
Venez voir ça, ou allez voir ça sur Médiat des Jeux, là, ceux qui nous écoutent pas en direct. Là, puis, c'est-à-dire pas Jenny puis pas Steve.
Ça va être bon. Fait que merci beaucoup.
Un plaisir.
On va peut-être se reparler.
Puis on peut te suivre sur Twitch, non?
Pas grand-chose. Moi, je dirais juste le podcast n'est pas mon genre.
Ouais.
C'est le truc que je travaille, que j'aime le plus. Fait que trouvez ça sur les plateformes de balado-diffusion du Québec. Puis vous entendrez ma voix mielleuse, mais cette fois pour parler de jeux vidéo.
Parfait.
Yes.
Parfait.
Ben, on rend l'antenne.
À toi, Benoît.
Merci.